Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. J'étais il y a quelques jours à Marseille dans le cadre d'une rencontre placée sous le signe de l'innovation média dans le monde arabe. Une bonne trentaine de personnes étaient présentes pour défendre leur projet et bénéficier peut-être d'une subvention Eptikar. J'ai profité de ce moment pour interroger deux jeunes figures du journalisme et de l'indépendance d'esprit du monde arabe. Lina Atallah d'Égypte, nous venons d'entendre dans la première partie, et Malek Radraoui de Tunisie. Émission spéciale aujourd'hui sans chronique pour permettre à ces deux personnes de valeur de s'exprimer dans la longueur.
L'atelier des médias. La web émission participative. RFI. Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous, vous.
Bonjour Malek Radraoui.
Bonjour.
On se connaît bien, tu es déjà venu plusieurs fois dans l'atelier des médias, tu as été longtemps actif dans Nawat. Nawat, c'est un blog collectif, un site d'information qui a été très important pendant la révolution en Tunisie, un blog qui existait depuis avant cette révolution. Tu as quitté le projet Nawat pour fonder un autre projet de médias qui s'appelle Inkifada, qui vient tout juste d'être lancé. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit, tu vas nous raconter un petit peu cette histoire. Avant cela, je veux bien que tu réagisses à ce qu'on a entendu par rapport à l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est là où il y a eu la seconde révolution importante dans le monde arabe après la Tunisie en janvier, enfin, le départ de Ben Ali en janvier 2011. Ensuite, ça a été quelques semaines plus tard le départ de Moubarak en Égypte. On vient d'entendre une partie de l'histoire. On va reparler certainement de l'Égypte et notamment de la condition des journalistes là-bas. Mais on vient d'entendre aussi ce récit de Lina, le parcours de journaliste, les difficultés qu'on connaît. Comment tu perçois ça, toi ?
Oui, c'est un témoignage vraiment très intéressant. Moi qui m'intéresse particulièrement à cette partie du globe, l'Égypte est un, pour tout, je pense, arabe, est un, une sorte de grand-mère ou de mère comme ça.
De référent culturel.
Oui, qu'on soit francophone ou arabophone ou qu'on soit de culture orientale ou pas, c'est un repère un petit peu. Et surtout que ces mouvements qui ont mené à ces révolutions, ou à ces, en tous les cas, tentatives de révolution, parce qu'on n'est pas encore dans un contexte réellement révolutionnaire, malheureusement.
Révolutionnaire peut-être, mais révolutionné, pas,
ça,
pas vraiment.
C'est sûr, voilà. Moi, je me rappelle très bien que j'ai vécu la veille de départ de Ben Ali en Égypte avec des amis égyptiens et j'ai vu l'espoir que ça a suscité, mais en même temps nous on regardait l'Égypte aussi comme un espoir pour la Tunisie. On a beaucoup appris des activistes égyptiens, donc c'est une grande histoire d'amitié et d'échange mutuel. Malheureusement, 3 ans et quelques aujourd'hui après le départ de Moubarak, on est stupéfait quand même par ce qui se passe en Égypte, généralement sur les libertés, sur la structure de la société elle-même, mais principalement et particulièrement sur les médias égyptiens qui, encore une fois, ont été un exemple pour tout le monde arabe. Il y a toujours eu une presse libre en Égypte, il y a toujours eu une presse de qualité en Égypte, malgré la presse gouvernementale, malgré les organes de propagande officiels, mais c'est un pays avec une culture réellement de la presse et des médias. Aujourd'hui, voir l'état des libertés, l'état de polarisation, je dirais même pas polarisation, parce qu'il n'existe même plus de polarisation, il existe une seule voix aujourd'hui.
Celle des militaires qui ont pris le pouvoir, et leurs opposants, les frères musulmans, sont très largement emprisonnés, condamnés à des peines à perpétuité, condamnés à mort, etc.
Oui, c'est tout simplement irréaliste. On est en train vraiment on est en état de choc face à ce qui se passe là-bas. Et donc, plus de polarisation, plus de diversité. Et je comprends très bien ce que disait Lina par rapport à cette difficulté d'exister aujourd'hui, autant qu'un journaliste indépendant, autant que personne ou de militant ou de journaliste au cours qui essaye de ne pas tomber dans ce piège de choisir un camp. Ceux qui se battaient contre Moubarak avant ne choisissaient pas un camp, justement. Ils choisissaient un camp des valeurs et des libertés qui nous réunissaient, mais qui n'ont jamais eu un camp politique réellement. Et on le voit aujourd'hui, tous ceux qui n'en sont pas dans la configuration de choisir justement le camp sont poursuivis, ont des difficultés, sont en prison aujourd'hui. Moi, je parle de mon ami, par exemple, Alain, qui a été jugé pratiquement sous tous les régimes depuis Moubarak au régime des frères, aujourd'hui avec le régime militaire. Et là, il est condamné à 15 ans de prison. Et donc, c'est des peines extrêmement lourdes pour quelqu'un qui refuse justement cette polarisation, refuse de choisir un camp et continue à défendre des valeurs communes, des valeurs de liberté et de liberté individuelle et de droit. Donc je suis de tout cœur avec Lina et son équipe, et je trouve l'histoire retiendra que certains journalistes ont résisté, ne sont pas tombés dans la facilité, n'ont pas joué le jeu du régime militaire qui ne peut pas de toute façon être une alternative dans un pays qui a donné ses enfants, qui ont combattu une dictature et qui ont espéré un jour vivre dans un pays démocratique respectant les droits de l'homme et les libertés pour lesquelles on s'est tous mobilisés. Donc chapeau, vraiment chapeau.
Tu as mentionné Alaï, donc Alaï Abdel Fattah, c'est ça?
Oui. Alaï, c'est, on va dire, c'est un des gourous de la blogosphère arabe, fondateur de l'agrégateur des blogs égyptiens, qui était aussi un précurseur dans la blogosphère arabe, fondateur aussi de l'Arab Blogger Meeting, un des événements les plus importants de la blogosphère arabe, de l'Arab Techies, qui est un événement très important dans la communauté des développeurs et des informaticiens de la région aussi. Alaï a eu des positions très courageuses pendant toutes les étapes que l'Égypte a connues, et encore une fois, et aujourd'hui, il paye son attachement aux valeurs fondamentales pour lesquelles on s'est battu, pas en choisissant la facilité justement de se positionner ou de jouer le jeu, on va dire, des différents régimes qui se sont succédés depuis le départ de Moubarak. Bien sûr, Alaï n'est pas le seul. Derrière lui, il y a plein d'autres activistes, plein d'autres personnes, qu'ils soient dans le camp des frères musulmans ou ailleurs. C'est pas parce que les gens appartiennent au camp de frères musulmans qu'on a le droit de faire ça. Les condamnations à mort sont des choses abominables.
Les condamnations de journalistes aussi. On se souvient des 3 journalistes d'Al Jazeera qui ont été condamnés à des peines de 7 et 10 ans de prison. D'autres qui sont maintenus emprisonnés pendant des mois sans procès, sans même de charges retenues contre eux, etc.
Ah oui, bien sûr. Il est pas du tout question de légitimer forme de répression de ce genre ou de procès expéditif contre peu importe en fait l'idée politique portée, du moment où moi j'ai pas vu dans les personnes qui étaient arabes des terroristes. Il y a eu des choix politiques peut-être désastreux de la part des dirigeants des mouvements des frères musulmans, ça c'est certain, mais personne n'a le droit de condamner toute une population. C'est une sorte de punition collective qui est, mais d'une monstruosité incroyable, que ce soit sur la répression qu'on a vue sur la place de Rabat ou sur l'acharnement aujourd'hui judiciaire contre toute personne qui peut défendre cette idée ou défendre ce groupe politique. Donc, c'est pas seulement défendre nos amis, c'est défendre les principes, surtout, et de ne pas se dire, oui, on a un problème avec les islamistes, donc, tant pis, ils n'avaient qu'à mieux gérer leur truc et c'est pas grave du moment où on préserve quoi en fait, on préserve rien. L'Égypte est en train d'être démantelée, l'Égypte est en train de perdre des années où elle a été un exemple, malgré les dictatures, malgré les régimes nationalistes, socialistes, populistes, opportunistes, tout ce qu'on veut. L'Égypte a toujours été un endroit où on pouvait se réfugier, où on pouvait écrire, où on pouvait publier, et voir aujourd'hui l'état des libertés dans ce pays est une chose qui attriste particulièrement tout journaliste et tout citoyen du monde arabe, je pense.
Cafon RF
المحبة صنعك يا ربي والكره زمان صنعت الناس نسيانهم نعمة يا ربي بغضك ذبحت يقتل الاحساس امانة يو امانة يي المحبة شيخة للمالي قاعدة عقار كم يلي يجي ليل ولا نهار وماني
قاعدين نعيشوا كي زبدة في بوبالا دي فقر نجري منجو مكري ما نعرف مونجالا دي فقر نجري ماما منجو مكري نجري ماما هوني خنجة برشا غمة
فات كلام جيب كلام في الظليمة ما فما سلام لومتني كي ما فما ملام رسم الدانكز ديما قدام بتبيعتو الدور وفي جيبي ما خداش الهف بتبيعتو صغري كبري تعدى شيخة مخي خف بتبيعتو راسي زمز نكمل عزي روح لف عنا كان ضربين صباح مش الناس كل قرات هوني تاكل بيت هوني تاكل لبوش مات لي ما عجبو يتكلات هوني كلها كيف كيف نمبر وان يا عفات هوني مازال العرض قديم يمتع الله يا الكريم هوني لام الدم بهيم ليبوس خارج رحيم هوني نهار العيد مسرحية الزعيم
هاني ندبهم
هوماني هوماني هوماني
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Malek, comment ça se passe en Tunisie aujourd'hui? Il y a également des emprisonnements en Tunisie. Récemment, il y avait une des figures de la révolution, Aziza Mami, qui a été emprisonnée. Souvent, on prend comme prétexte l'utilisation de cannabis ou des choses comme ça pour embêter des activistes, pour embêter des réalisateurs de films, etc., pour embêter des artistes aussi, des chanteurs.
Oui, alors c'est une forme de volonté de retour en arrière, mais beaucoup plus subtile. Donc dangereuse, bien qu'elle ne s'exprime pas forcément par le meurtre ou par les arrestations massives ou les condamnations lourdes. Donc c'est une sorte d'une forme de répression pernicieuse, comme ça, qui s'attaque des fois aux habitudes des gens, à leur vie personnelle, qui cible particulièrement certaines personnes qui continuent à croire, à porter le rêve révolutionnaire, en fait, dans la société. Et ça, Aziz Amem est la partie émergente de l'iceberg. Avant lui, des dizaines d'autres jeunes, des leaders d'opinion dans leur région, dans leur quartier, qui se battent contre, que ce soit Nahda et tout, ou les autres gouvernements qui ont suivi. Ça veut dire, là, on voit une politique, une constante, et on se rend compte, en fait, que réellement, le véritable gagnant de ces trois dernières années, c'est le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas été démantelé, qui n'a pas eu à répondre de ses actes avant la révolution, et aujourd'hui, il continue à ne jamais réellement répondre de ses actions contre les activistes, mais aussi contre les citoyens. Oublions pas que la torture, par exemple, aujourd'hui, dans les postes de police, continue à être une pratique courante et qu'elle ne vise pas seulement les hommes politiques ou les activistes quand ils sont arrêtés, elle vise tous les citoyens presque qui rentrent dans un poste de police. C'est prouvé sur 190 cas de torture, on va dire, documentés par l'OCTT, qui est l'Organisation de défense contre la torture et le mauvais traitement, deux cas seulement ont abouti à un jugement. Ça montre aussi que la justice continue à être un instrument aux mains du ministère de l'Intérieur et qu'il continue à ne pas rendre justice réellement aux Tunisiens. Donc, énorme déception sur deux institutions qui devaient être réformées, qui devaient changer pour qu'on puisse réellement parler de révolution. Et malheureusement, on voit aujourd'hui que ni la justice, ni le ministère de l'Intérieur n'ont été réellement réformés, ni inquiétés, et continuent à perpétuer des pratiques vraiment de l'ancien temps. Donc, la déception est là, mais en même temps, un énorme espoir, parce que on a gagné certainement un espace de liberté que la Tunisie n'a jamais connu, hein, depuis l'indépendance, il faut être clair là-dessus, et on a élargi le champ de l'action, on a élargi le champ des personnes impliquées. Moi, je dis toujours que sous Ben Ali, on était quelques-uns, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux, beaucoup plus mixte aussi, de toutes les classes sociales, hommes comme femmes, les femmes d'ailleurs particulièrement, et ça nous rend quand même plutôt optimistes pour les prochaines batailles qu'on aura de toute façon à mener.
Qu'est-ce que c'est alors Inkifada ?
Alors Inkifada, c'est un magazine web natif tunisien.
Né sur Internet, quoi.
Né sur Internet, c'est un pure player pour l'instant.
Donc, c'est un jeu de mots ?
Oui, c'est un jeu de mots alors entre Ink, qui est l'encre, avec lequel on écrit, et Intifada, qui veut dire soulèvement en arabe. Et donc, c'est un peu le soulèvement de l'encre, la révolution de l'encre, un peu. Il y a un autre jeu de mots aussi, on est à Marseille et on peut le faire. Donc, c'est aussi l'encre fou, Fada. Donc c'est aussi un sens qui me plaît, moi, particulièrement, parce qu'il y a une certaine forme de folie aussi à se lancer dans un projet pareil, où justement on prend un peu vraiment à contre-pied et à contre-courant un peu toutes les tendances d'aller vers le clic, l'instantanéité, le travail journalistique, enfin le nombre de mots de plus en plus réduit, le nombre de lignes de plus en plus réduit. Et donc nous, on a décidé de prendre le temps et de réfléchir réellement aux questions, mais d'une manière posée, donner des éléments et des clés de compréhension à cette justement transition tunisienne, que ce soit en traitant des sujets des fois un peu lourds comme la torture, le terrorisme, mais qui sont liés directement à la vie quotidienne des gens. Le terrorisme ou ces événements terroristes qualifiés en tous les cas de terroristes, parce qu'on ne sait pas encore exactement c'est quoi ces événements, touchent quotidiennement les gens. Il y a un bilan qui a été dressé dans une carte interactive qu'on a faite sur ces événements-là depuis le 14 janvier 2011, et le nombre de morts est impressionnant. Il y a près de 50 agents de l'ordre, que ce soit de l'armée, de la police, qui sont morts en affrontant des individus armés. Plus de 50 personnes aussi de ces individus ont été tuées, 5 civils, et donc c'est concret. Revenir sur ces sujets-là, même s'ils sont un peu anxiogènes, permet aussi de rationaliser, d'essayer de donner des éléments de compréhension aux Tunisiens qui ne comprennent pas trop ce phénomène. Donc on essaye d'aborder des questions qui touchent les gens et avec un esprit d'objectivité journalistique. Et c'était ça le projet de départ. Avant le départ de Ben Ali, c'était important que les gens parlent et donnent leurs avis, parce que c'est ce que le régime ne voulait pas. Aujourd'hui, les citoyens, on le voit de plus en plus, les médias qui étaient complètement muselés font de l'opinion aujourd'hui. Et quand on ouvre un quotidien, on a là 80% du contenu, c'est de l'opinion. Les journalistes font du commentaire de l'information, n'en font pas de l'information. Et
ils ne sont pas à la source de l'information, ils commentent des informations.
Ils commentent l'information. Pour la plupart du temps, c'est des informations collectées sur Facebook, sur des réseaux sociaux. Facebook, qui était un outil extraordinaire, est devenu aujourd'hui vraiment une véritable jungle, en fait, pour le citoyen qui veut s'informer. De la désintox, de des informations, de la propagande, de la contre-propagande, un discours de haine, un discours de très violent. Et donc, on a senti ce besoin de se poser. Et on a senti un besoin réel des gens pour lesquels l'information est destinée, justement, d'avoir du contenu de fond, du contenu recherché. Alors c'est la partie éditoriale. Il y a une dimension très forte aussi dans ce projet, qui est la dimension technique. Et c'est là où peut-être aussi ce projet est original, c'est de mettre ensemble journalistes, développeurs et graphistes pour la conception des objets journalistiques, moi j'aime bien les appeler.
C'est comme ça que, par exemple, sur votre premier article ou votre première enquête sur le terrorisme, vous avez pu faire une carte interactive en même temps. Même question qu'à Lina, quand on veut faire de l'information indépendante, je ne sais pas si l'objectivité existe, mais en tout cas l'indépendance, c'est très important. Comment ça se passe? D'abord, comment ça se passe pour vivre, survivre, et comment ça se passe vis-à-vis du regard des autres dans des sociétés qui, la société tunisienne est peut-être moins polarisée que la société égyptienne aujourd'hui, mais elle l'est quand même beaucoup.
Oui, la société tunisienne est assez polarisée quand même. On a deux droites à peu près qui s'affrontent entre elles, une droite conservatrice et une droite religieuse, qui représentent les deux forces les plus importantes du pays. Et de l'autre côté, on a une gauche plus ou moins centriste, plus ou moins extrême gauche, qui essaie de ramasser un peu les miettes, en fait, de ce gâteau électoral. Alors, comment financer un projet indépendant en Tunisie aujourd'hui, sachant que il n'existe aucun fonds d'aide aux médias en Tunisie, contrairement à la France par exemple. Les hommes d'affaires ne s'intéressent aux médias que pour obtenir des tribunes ou avoir des réseaux d'influence, régler des comptes. Et on le voit, plein de sites internet, plein de titres ne servent qu'à diffamer, attaquer l'autre et ne font pas vraiment de l'information. Donc nous, on a pris le pari de se dire qu'on va créer une structure associative qui, elle, va s'occuper de trouver les moyens pour que ce site puisse exister et que pour les journalistes puissent être bien sûr rémunérés pour leur travail et qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, le modèle économique est...
L'association s'appelle Al-Khat, ça veut dire la ligne ou l'écriture.
Ça peut être la ligne éditoriale, ça peut être la ligne droite aussi pour tenir le cap, ou bien sûr l'écriture. Et l'idée était de trouver, alors d'avoir un modèle économique basé sur deux composantes essentielles. La première est une composante de prestation de services, Dans l'équipe, on a des compétences qui sont considérées parmi les meilleures en Tunisie, que ce soit en développement, pour les journalistes, c'est le cas, et aussi la dimension design aussi, qui n'est pas très développée en Tunisie, donc on a essayé de développer quelque chose de particulier. On a aussi dans notre équipe une réalisatrice, productrice professionnelle, qui a déjà des films primés et qui s'occupe, elle, de la partie production audiovisuelle. Et donc, on a essayé de mettre en place comme ça un certain nombre de services, que ce soit dans la formation, dans le développement web, et dans la production audiovisuelle destinée à des institutions, à des privés ou à des structures associatives du pays. Donc ça va représenter cette année à peu près 30% du budget annuel du projet, en attendant de développer petit à petit notre offre de services et réussir peut-être dans les deux, trois prochaines années à équilibrer un petit peu nos comptes et à pouvoir se subvenir à nos besoins. C'est un projet à but non lucratif, c'est une start-up média à but non lucratif. Le statut malheureusement n'existe pas encore en Tunisie, donc c'est pour ça qu'on a choisi l'association comme structure mère. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir les ressources nécessaires pour pouvoir prendre le temps, travailler sur les outils nouveaux qu'on veut développer au service des médias en ligne, et bien sûr rémunérer correctement nos journalistes, leur laisser la possibilité de se déplacer, de prendre le temps de faire leurs enquêtes, de sortir de leur bureau bien sûr, et c'est ça notre objectif, et j'espère que voilà, on va réussir.
Ce qui est frappant, ce qui est assez étonnant, c'est dans vos deux médias, Lina, Malek, ils sont tous les deux issus de rédactions dissidentes, en fait, qui ont quitté un projet pour aller vers un autre. C'est peut-être un peu un hasard, mais c'est peut-être aussi pas un hasard. Je sais pas comment tu perçois ça, toi, Lina.
Je crois que ça m'a beaucoup intéressée dans ce que Malek a dit, le fait de prendre des risques et le fait de ne pas être soumis à des choses, à des réalités, à des conditions qui ne nous plaisent pas. Il faut être toujours capable de prendre des pas audacieux. Si on sent que ce qu'on fait ne nous convient pas idéologiquement, pratiquement. Donc je crois que c'est ce qui nous unit. En Égypte, je dis maintenant, c'est de la contre-intuition de faire un projet de médias. Je crois que nous sommes en train de former une nouvelle institution de médias en général avec tous ces projets-là. Je pense qu'on est en train de commencer une nouvelle réalité, une nouvelle institution de médias avec toutes ces idées-là. Et ça sera très intéressant de voir comment ça va évoluer, comment ça va se développer.
Malek,
la dernière idée justement sur cette émergence d'une nouvelle forme d'institution médiatique. Alors, c'est une forme beaucoup moins romantique en fait, parce qu'elle veut se confronter réellement à la réalité économique. Donc on n'est pas dans un modèle de bénévolat, on n'est pas dans un modèle où on attend des subventions qui tombent du ciel. Donc on veut créer réellement un modèle économique viable pour ces nouveaux médias, mais il y a aussi les principes fondamentaux, tu vois, qui sont là. Donc c'est des journalistes qui ont des idées, qui veulent les défendre, qui sont conscients de leur mission, et que ça permettra, je pense, de redéfinir le rapport entre les financiers, ceux qui financent les projets, et ceux qui sont les tenants de la ligne éditoriale et du contenu.
Une précision, on ne l'a pas mentionné, Inkifada, pour l'instant, c'est en français, c'est ça, mais comme Madama, ça sera un site bilingue à l'avenir, ou arabe-français, ou ça reste français ?
Ah non, c'est un site disponible en deux langues. Il y a une forte demande de contenu en arabe, et c'est important, je pense, de promouvoir aussi ce contenu.
Question rituelle pour terminer. À chaque fois que j'ai eu l'occasion soit de rencontrer des personnes qui avaient un petit peu incarné ou qui avaient été actives dans les révolutions arabes, je leur ai demandé comment ils percevaient l'avenir. Est-ce que vous restez optimiste ? Est-ce que vous gardez d'espoir ? Malek Pelina ?
Que ce soit les islamistes, que ce soit les blocages qu'on a vécu ces dernières années, je pense qu'on a quand même évolué, qu'on a quand même avancé. Malheureusement, le point noir pour moi, c'est la réforme des institutions. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la justice, le ministère de l'Intérieur. On est à quelques mois des nouvelles élections, avec un risque énorme d'abstention, malheureusement, au bout de 3 ans. Donc il y a un désamour et déjà une sorte de... Les gens ne croient plus en la politique et c'est malheureux. En 3 ans, on a tué l'idée de la politique. Ça veut dire que la politique peut changer les choses. Et ça, c'est assez grave. Je vais être optimiste, bien sûr, et me dire qu'on finira par finalement changer des choses. C'est un processus lent. On a compris aujourd'hui. Ça sera pas instantané. Ça sera pas une révolution du jour au lendemain. Et donc, on s'est préparé. Je pense qu'on s'est un peu calmé et on a pris du souffle et on sait que le chemin va être un peu lent. Mais on est prêt.
Lina Atallah. pour Madame Asr et ton point de vue donc, sur l'avenir. Est-ce que tu es encore optimiste? Est-ce que tu es encore confiante dans l'avenir de l'Égypte et peut-être plus globalement du monde arabe?
Je crois que je devrais être un peu moins optimiste que Melek. C'est trop difficile de parler de l'optimisme alors que nos amis les plus proches sont en prison ou sont morts. Mais ce n'est pas pour dire qu'on est pessimiste. Je crois que ma mère me dit toujours que le pessimisme, c'est un luxe qu'on ne peut même pas avoir. Donc on n'a même pas ce luxe. Le fait d'essayer de faire Madame Oss, c'est une forme d'optimisme un peu forcé, un optimisme cruel, comme on dit. Aussi, comme Melek a dit, il y a d'autres initiatives, d'autres manifestations de dissidence et de changement au niveau culturel, au niveau politique. Et toutes ces initiatives-là imposent un nouveau langage politique qui s'impose doucement sur la scène, pas subitement. Et bien que on a l'impression que la situation est finie en Égypte et c'est dans la main de la force militaire ou de l'institution militaire, je sens que le trouble existe toujours. Donc c'est pas pour dire que ça sera mieux et qu'il y aura un nouveau soulèvement ou qu'il y aurait une nouvelle révolution, je sais pas dire la vérité, mais ce que je sais, c'est que l'institution militaire et l'État égyptien ne sont pas aussi dans une condition soutenable. Mais rien n'est stable et rien n'est fini pour moi en Égypte, je crois.
Merci à tous les deux.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 345 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, à nous lire, à nous contacter sur Twitter, Facebook, Soundcloud, atelier.rfi.fr, mondeblog.org, libiablog.org et arablog.org. Si vous êtes un mécène, un bailleur, une fondation, une entreprise et que vous souhaitez appuyer ou sponsoriser l'Atelier des médias, n'hésitez pas à nous contacter par mail atelier@rfi.fr. Ce projet, l'Atelier et ses petits, Mondoblog, Arablog, Libiablog et bientôt l'Atelier Radio ont besoin de vous. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais. Des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.